Merci beaucoup Vinicius. J'aime toujours quand nos collègues brésiliens s'excusent de leur français, puisque c'est vrai que notre portugais est absolument admirable en comparaison. Que ça nous confirme que nous sommes très compétents comparés à eux en langue. Est-ce qu'il y a des questions ? Après chaque intervention, nous avons 10 minutes, un quart d'heure de questions.
5 minutes.
François, je suis sûr que tu as des choses à dire sur la vie.
Sur la vie. Oui, non, justement, c'est la réconciliation avec la vie. Hein, et justement, tu as juste évoqué à la fin l'idée de Lebensgefühl, le sentiment de la vie. Et du fait que quand même le beau est une intensification des forces vitales et donc il met en jeu la vie. Dans la critique de la faculté de juger, on ne parle pas de la vie et du vivant uniquement dans la seconde partie, mais aussi dans la première partie, parce que ce dont on parle dans le beau, c'est aussi de ça, de cette intensification, parce que tout plaisir est intensification des forces vitales. Et est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose là qui est de l'ordre de la vie et qui ne serait pas de l'ordre du monde tel qu'on se le représente, mais qui...
Non, je suis tout à fait d'accord. Les points, à mon avis, d'intérêt, c'est ça que je voulais mettre un peu en évidence, en discussion, enfin, c'est que ce qui compte, entendre par la vie, c'est très différent de ce qui ont cherché les esthétiques plus proches à nous. Parce que cette intensification de la vie, vous avez raison, elle est toujours intensification du pouvoir subjectif, c'est-à-dire elle ne met pas en question l'unité du sujet, c'est-à-dire elle ne met pas en rapport, je pense, les sujets avec l'objet dans une dialectique des constitutions du sujet et de l'objet. C'est vrai que c'est de la vie, mais c'est de la vie subjective, de la vie de la représentation, je pense. C'est ça que j'ai essayé de dire. C'est toujours le jeu du sujet avec ses représentations, c'est-à-dire, c'est un peu ce qui donne à penser. C'est pas déterminé, là, c'est la vie, je pense que la vie pour Kant, c'est un peu dur de dire comme ça, la vie pour Kant, enfin. Surtout parce que c'est... Non, là, c'est un peu...
Attention.
Je pense que la vie pour Kant... je pense que la vie pour Kant, c'est... C'est une pensée indéterminée. Et là, c'est le jeu, c'est l'exercice mental qui n'est pas orienté vers la détermination, vers la loi morale, etc. Mais c'est toujours recul, on dit ça, distance avec la matière, avec le sensible par lui-même. Dans le sens où, par exemple, Malherbe l'exploit dans les trois essais sur les sensibles. Là, il y a toujours une intellectualisation, si tu veux, dès la vie même. Parce que c'est l'enjeu du sujet avec ses représentations. C'est un peu ça que j'ai essayé d'exagérer. Je suis d'accord avec toi que peut-être l'exagération, quelquefois, est exagérée. Enfin, mais...
c'est très difficile de savoir ce que ça veut dire, la vie, hein, chez Kant.
Ouais, c'est ça.
Mais justement, une rare caractérisation positive qu'il donne dans la critique de la faculté du juger, c'est de faire équivaloir Gemüt et vie. Hein, il dit que le Gemüt, c'est le principe vital lui-même. Est-ce qu'il y a une intellectualisation? Je ne sais pas. C'est subjectivation sans aucun doute. Intellectualisation, est-ce que...
Ouais, peut-être le terme c'est fort, mais au moins il n'y a pas d'attachement à la positivité de l'existence. En ce sens-là, on voit comment Cassirer a pu lire Kant toujours en maintenant cette distance entre la forme et la matière. Et tandis que la phénoménologie, même Merleau-Ponty, qui a écrit au même temps de Cassirer, a essayé de surpasser ces deux pôles pour une genèse du sens. Tandis que chez Kant, je pense, il y a toujours ce détachement, cet abandon de la positivité pour se sentir soi-même. Intellectualisation, peut-être, c'est trop fort parce que, enfin, Kant emploie des termes pour parler pour critiquer Leibniz. Mais c'est drôle parce que c'est dans cette critique même de Leibniz qu'il dit c'est faux d'imaginer qu'on connaît quand on pense. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas assimiler toute pensée au connaître. Et c'est cette pensée qui va devenir, dans la troisième critique, libre et jeu. Mais je suis d'accord, je dois penser un petit peu comme intellectualisation, c'est un peu dur. Hein. Merci.
Camille ?
Les esthétiques contemporaines qui se revendiquent de la confusion, de la réconciliation de l'art et la vie revendiquent, on s'aperçoit que ce qui est en jeu, c'est la question du pouvoir de l'art et au fond de sa capacité créatrice. Et donc si on... J'aurais aimé savoir ce que vous concluez concernant ce caractère créateur de l'art chez Kant. Est-ce qu'on pourrait dire, en vous suivant, que finalement il échoue cette dimension créatrice
de l'art.
De l'art.
Mais peut-être, si vous me permettez, je prends, comment on dit ça, en demi-chemin, en atal.
Un raccourci.
Il y a un critique d'art au Brésil, j'aime bien. Et c'est drôle parce qu'il est, d'un côté, il est un phénoménologue. Il a lu beaucoup Merleau-Ponty. Il a théorisé sur cette expérience qui a tenu place au Brésil dans les années 60. Et d'autre part, il énonce des affirmations très kantiennes. Et il est quelqu'un qui prend parti, il prend les parties de la modernité dans l'art. Il n'aime pas beaucoup les Repning, il aime ses travaux sur les tableaux, des informations dans le sens de donner forme à ce qu'on peut penser. Et il dit, il y a un texte où il dit, c'est dans ce libre exercice de l'imagination, là c'est Kant, qui on peut reprendre la dimension politique de l'art, parce que à travers cet exercice, on peut imaginer les mondes de façon autrement de ce qu'il est. C'est-à-dire, on peut penser le monde comme il peut être et pas comme il est, en fait. Et là, c'est un peu une dimension moderne. Les avant-gardes avaient en commun ces projets aussi. Et ça, c'est, d'un côté, c'est très kantien. C'est libre jeu entre l'imagination et l'entendement, cette capacité d'informer, de donner une nouvelle forme à quelque chose qui n'était pas là. Là, c'est, on peut penser ça du point de vue de l'émancipation. Enfin, là, c'est un rapport c'est une manière de passer de l'art à la vie, à la politique. Je pense qu'au contraire, que c'est que les critiques de cette conception moderne ont revendiqué, ils ont revendiqué plutôt la matérialité même, le sensible même, la jouissance. Ils ont attaqué Kant dans le sens qu'on ne peut pas résumer l'esthétique à l'idée de désintéresser par l'objet. Parce que c'est une idée drôle, une satisfaction non intéressé. Il n'y a pas de jouissance, tu veux. C'est pas intellectuel, mais il n'y a pas de jouissance de l'objet, quand même. C'est plutôt Charlotte. Oui, c'est vrai, il faut se désintéresser. Il ne faut pas consommer l'objet. Il y a des tendances dans les postmodernismes, je pense. Je ne suis pas connaisseur, mais par ce que j'ai lu, il y a des tendances qui veulent emphatiser ses rapports à l'objet même, dans sa matérialité, dans son... Et de ce point de vue-là, Kant, c'est vrai que je pense qu'il ne peut pas servir à ces propos, vous voyez. Même s'il y a une dimension politique qu'on peut penser comme attachement de l'art à la vie chez Kant, c'est une dimension politique encore utopique. Et là, les postmodernismes d'une certaine manière, je pense qu'il a attaqué cette idée d'utopisme de l'esthétique moderne. Je fais un petit détour, mais j'espère que... Merci pour la question.
Une autre question ? Patrick.
J'ai suivi votre démonstration et je me suis posé la question si l'esthétique de Kant pouvait répondre à, enfin, pouvait servir de base théorique à l'esthétique classique telle qu'elle se manifeste par exemple dans la poésie allemande chez Schiller que vous avez évoqué, chez Goethe également ou chez Beethoven dans la musique. Et il me semble que ce n'est pas le cas parce que l'esthétique classique est une esthétique très puissamment normative et dans mes études on m'a beaucoup appris à lire Kant et l'analytique du beau comme un texte normatif, c'est-à-dire que faut-il pour que le sujet juge belle une œuvre ou juge beau un objet, il faut les trois critères célèbres universalité sans concept, satisfaction des intéressés, comme vous l'avez rappelé, et puis la finalité sans fin. Mmh. Or, si je vous ai bien suivi, vous avez presque entièrement évacué toute connotation normative de ce texte, de l'analytique du beau. Vous en avez fait un texte essentiellement analytique et descriptif, c'est-à-dire que se passe-t-il dans un sujet lorsque le sujet juge beau un objet ou une œuvre. Mmh. Et non pas du tout qu'est-ce qu'il faut que l'objet est comme propriété mm-hmm. ou manifeste comme matière de la sensation mm-hmm. pour que un jugement esthétique puisse être rendu. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette réception de votre travail ?
Bon, merci par la reconstruction. C'est vrai que j'avais pas me rendu compte, mais c'est bien ça que j'ai proposé, c'est vrai. Et de toute façon, je suis d'accord avec moi-même. C'est-à-dire que selon moi, je trouve intéressant de comparer Kant avec les classicismes du XVIIe siècle. Au moins, dans ce niveau-là, si le jugement esthétique se montre comme paradigme d'une subjectivité, et ça, je pense qu'on peut le soutenir sans beaucoup de difficultés, cette subjectivité, par contre, elle est toujours pensé par Kant comme indéterminé. C'est le contraire de la détermination. Et là, à ce niveau-là, on voit bien la transition d'une esthétique normative, une poétique normative, comme celle du XVIIe siècle français, le classicisme, enfin, et les points de vue de Kant. C'est-à-dire, on ne peut pas régler a priori, qu'est-ce que c'est beau, ça c'est pas très juste avec les poétiques classiques, mais de toute façon, je pense que les lecteurs du XVIIIe siècle ont réduit à ça, à cette caricature, les poétiques classiques. Et Kant lui-même, je pense qu'il a pensé sa position dans cette singularité, c'est-à-dire l'esthétique ne peut pas être normative parce qu'elle est plutôt l'expérience d'un sujet détaché de la matière, mais qui pense à partir de cette matière. La matière est le prétexte de ce libre jeu du sujet avec ses représentations. Dans ce sens-là, je pense qu'on peut trouver une correspondance, par exemple, dans la narrative de Werther. Ça, c'est pas casuel que j'ai cité Werther, parce que, en fait, si on pense Werther, c'est un discours épistolaire où l'indétermination est vigoureuse. Il n'aime pas travailler. Enfin, on pouvait même essayer de voir les présuppositions matérielles de la position de Werther. Mais de toute façon, il y a une indétermination très forte chez Werther et que je pense c'est la même chez Kant. Là, je ne sais pas au niveau de la doctrine, mais au moins au niveau de la narration, des choix narrative, je pense qu'on pourrait trouver des correspondances entre l'analytique esthétique de Kant, Schiller et les jeunes Goethe, sans doute, je pense. Oui.
Le premier Schiller aussi seulement. En fait, c'est une esthétique de Sturm und Drang.
Oui, c'est ça, Sturm und Drang. Ouais.
Oui, oui. Ouais.
Et ça, c'est intéressant parce qu'on tend à penser Kant comme c'est un auteur qui prend toujours la parole de la raison. Et les faux romantiques, Sturm und Drang, comme celui-là du sentiment. À mon avis, on peut trouver là une idée que ce n'est pas une bonne opposition, raison et sentiment. La bonne opposition, c'est détermination et indétermination. Les sentiments peuvent être l'occasion de cette indétermination, aussi bien que la raison. Le libre jeu, c'est indéterminé. Mais c'est l'indétermination des facultés du sujet, de l'imagination et de l'entendement, a priori. Non? Tandis que, enfin, Werther, c'est le sentiment, mais c'est indéterminé. Enfin, je ne sais pas si...
J'ai une dernière question.
Je dis dernière,
mais merci. Parce que,
après, il faut passer, donner la parole à François.
En fait, donc, tu as rappelé dans ta conclusion que tu vises à soutenir que l'esthétique est la réponse à un problème qui n'est pas esthétique, mais spéculatif, qui, au fond, est celui de la finalité. Et qu'en fait, c'est cette finalité qui est un concept de la raison dans la critique de la raison pure, devient le principe subjectif de la faculté de juger dans la troisième critique, et que donc au fond, l'esthétique ne naît pas d'une problématique esthétique.
Hein? Ouais, c'est bien ça.
Alors, on peut être que d'accord sur cette transition de la finalité, etc., etc., mais pour qu'il y ait une troisième critique, il faut que la finalité soit une finalité bien précise, et que, au fond, la question qu'on pourrait poser, c'est pour qu'il y ait une troisième critique, il faut qu'on passe de la finalité comme systématicité des lois, etc., à la finalité de quelque chose qui est bien nouveau et qui a à faire avec le sentiment. De sorte que, certes, c'est une question de finalité qui fait le lien conceptuel, mais en l'occurrence, il n'y aurait rien à écrire de nouveau sans la découverte du sentiment.
Du déplaisir, plaisir, déplaisir.
Du sentiment comme instant, troisième instance du Gemüt. Ce pourquoi la deuxième critique, en approfondissant la découverte du respect, fait beaucoup.
C'est ça.
Et si on est dans le sentiment, on est dans l'esthétique au sens large. C'est-à-dire que certes, il y a cette dimension spéculative de finalité, mais sans l'invention du sentiment, si on peut dire, il n'y a pas de troisième critique non plus.
C'est tout à fait. Ah, pardon.
Et je termine juste. Ça s'incarne aussi dans le texte que tu cites sur le jeu. Parce que c'est pareil. On peut dire, en effet, il y a cette dimension de jeu d'une faculté avec ses représentations. Mais pour qu'il y ait jugement de goût, et aussi sublime, il faut que du jeu d'une faculté avec une représentation, on passe d'une part à un jeu entre facultés, entendement, imagination, dans le cas du beau, raison, imagination, dans le cas du sublime, et surtout, ce jeu qui devient interfacultaire, c'est un jeu qui est senti. Et s'il n'y a pas ce sentiment, encore une fois, il n'y a pas à parler de libre jeu. Donc il y a ces fils conducteurs qui viennent du spéculatif, mais ces fils conducteurs ne donneraient rien de nouveau, et surtout pas une troisième critique, sans l'invention du sentiment. Non ?
Je suis tout à fait d'accord, et c'est ça, pardon, c'est ça que j'ai essayé de au moins avertir quand je parlais de l'importance de la deuxième critique, de la critique de la raison pratique. Il y a, assez respect, il y a une anecdotique.
Une anecdote.
Il semble que Kant ait paru les bouquins de Lebrun sur Kant et la fin de la métaphysique. C'est Janotti, mon professeur à l'Université de Saint-Paul, qui m'a raconté ça parce qu'il était très proche de Villemin. Il semble que Villemin a dit c'est merveilleux, mais il manque une référence plus claire, une prise en compte de la deuxième critique. Et là, je pense que c'est ça, tu as bien dit, c'est-à-dire il y a la problématique spéculative de la finalité, mais à côté de cela, il y a une condition d'autre nature, si tu veux, enfin, psychologique peut-être, qui s'est développée à la deuxième critique, c'est-à-dire c'est l'aspect dynamique de l'esprit. Parce que dans la première critique, l'esprit, Gemuth, il est plutôt utopique. C'est entendement et sensibilité. Et il faut toujours unir l'entendement à la sensibilité, etc., etc., etc. Dans la deuxième critique, à cause même de son sujet, je pense Kant a développé les aspects dynamiques de Gemuth, et ça lui a été absolument indispensable pour penser la finalité en termes de jeu, de pouvoir de représentation de Gemuth. Alors là, je suis tout à fait d'accord.
Il y a cet aspect dynamique et il y a cet aspect sensible aussi. C'est-à-dire
non, dynamique, c'est-à-dire ça qui inclut aussi le sentiment. Même si c'est un sentiment, à mon avis, ça ne nie pas l'aspect enfin, non matériel du sentiment,
oui,
si tu veux.
En fait, oui, ça, c'est notre ligne de ton point. Interprétation, c'est que en fait, la vie dont Kant parle, c'est la vie de l'esprit.
Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Ça, je pense que c'est un peu difficilement vrai. Mais
C'est bien ça, tu as bien résumé.
Voilà.
Bon, merci.
Merci beaucoup, Vinicius.
Merci à vous.